CJSO vous offre les sorties du vendredi.
On est aux sorties du vendredi en direct de Statera Expérience de la belle visite aujourd'hui. C'est toujours un bonheur de la recevoir. Louise Portal, allô.
Allô, Luc.
Comment vas-tu?
Écoute, on a pris un peu d'avance sur nos auditeurs. On s'est compté un peu nos dernières nouvelles. Mais ça va très bien, vraiment. On a un été de déconfinement, puis ça fait beaucoup de bien de revoir nos amis. Et puis, je partage mon temps entre mon petit pied à terre à Saint-Lambert et puis ma résidence au Saguenay maintenant. Et tout va bien.
Au départ, ça devait être la résidence au Saguenay, le pied à terre. C'était ton chalet.
Oui.
Mais là, évidemment, avec la pandémie, tu es allé t'installer là. Et tant mieux, parce que c'est un décor magnifique. Tu es sur bord de l'eau.
Oui, puis en plus, pour moi, ça permet comme un retour aux sources. Tu vois, j'ai quitté le Saguenay en 1968. Pour faire mes études en théâtre. Ça fait déjà 50 ans que je suis comédienne, actrice, chanteuse, écrivaine. Et là, de faire ce retour, maintenant, c'est très agréable. C'est comme si je m'en vais boucler une boucle. J'ai plus de temps qui m'appartient, comme je dis, pour aimer et vivre et écrire.
Il y a un nouveau livre, d'ailleurs, « L'héritage des mots, correspondance entre deux rives ». Ça fait déjà quelques mois que c'est sorti. C'est un livre à deux autrices avec Jeannette Rivière. C'est né comment, ce projet-là?
Alors, ce projet est né par ma rencontre avec cette maintenant centenaire. Jeannette a eu 100 ans au mois de janvier dernier. Et c'est par un concours de circonstances. J'étais présidente d'honneur du Festival Contes en île aux îles de la Madeleine, organisé par Sylvain Rivière, son fils. Ça, c'est en 2006, je crois. Et Jeannette était présente. Et j'ai tombé sous le charme de cette octogénaire à l'époque qui était tellement ravissante, tellement allumée. Et j'ai découvert qu'elle aimait beaucoup l'écriture, qu'elle aimait beaucoup écrire son journal, écrire des lettres. Alors, doucement, comme ça, on a commencé une correspondance de temps en temps. Et soudainement, je lui ai demandé dans une lettre de devenir ma grand-maman d'adoption.
Parce que tu n'avais plus de grand-maman depuis longtemps. Tu as perdu ta grand-mère alors que tu avais 12 ans, si
c'est
je me souviens bien.
C'est ça.
C'était comment ce moment-là qu'elle ait accepté? C'est touchant d'avoir une nouvelle grand-maman qu'on a choisie déjà aussi.
Bien, ça m'a beaucoup touchée d'abord parce qu'elle a dit oui très spontanément. Et ça me permettait d'avoir un lien avec une aînée. Ce que je n'avais pas vécu, moi, vraiment dans ma vie. Puis en même temps, une aînée qui aimait beaucoup la littérature, l'écriture, l'art épistolaire, ce que j'avais connu, moi, avec du vivant de mon père. Donc, c'était un mélange de deux affaires, d'avoir une grand-maman, puis en même temps d'avoir une femme, au fond, je pourrais dire une femme de lettres et d'écriture. Et quand on avance dans la vie, parce qu'on a 30 ans de différence, bien, ça m'a permis de puiser à même sa sagesse, à même sa réflexion sur la vie. Ça m'a donné des outils pour avancer sur ce chemin du vieillir quand on ne mêle pas dans notre soixantaine. Donc, depuis plus de 10 ans maintenant, on correspond régulièrement. Et c'est comme ça que le livre est né, de partager en fait l'héritage de nos mots et de nos réflexions.
Est-ce que ça t'a changé, cette discussion-là? Parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, on n'a pas souvent ce rapport-là avec un aîné, particulièrement plus on avance en âge, les gens qui sont 30 ans plus vieux que nous, bien souvent, ne sont plus là. Donc, on n'a pas ces conseils-là, ces réflexions-là qui nous aident. Est-ce que ça t'a changé, toi?
Bien, ce que ça m'a permis d'acquérir, c'est un peu plus de confiance, en fait. De confiance dans l'espérance qu'on est à la bonne place au bon moment. On fait des choix judicieux, plus judicieux. Comme lorsque, il y a 5-6 ans, on a décidé de vendre nos deux maisons en Estrie et en Gaspésie. Je me souviens qu'on avait eu un déjeuner avec grand-maman Jeannette, puis on lui avait dit, bien, tu sais, il faut lâcher prise à nos maisons, c'est pas facile, mais on sent qu'il faut qu'on aille de l'avant, qu'on soit un peu plus libre d'aller et venir, moins de responsabilité. Et je me souviens que grand-maman avait fait un premier ministre d'elle-même. Elle nous avait regardé, puis très doucement, elle avait dit, « Ça va bien aller.
» La correspondance, ça a toujours été important pour toi. Déjà avec ton père, plus jeune, il y avait cette correspondance-là, ce lien-là par l'écrit. Un lien qu'on perd de plus en plus au fil des années avec les messengers, les téléphones, l'Internet, tout ça. À quel point c'est important l'écriture papier pour toi?
Bien, c'est un héritage, hein? C'est quelque chose qui reste. Tu vois, si je te pose la question, Luc, c'est quand la dernière fois que tu as reçu une lettre?
Ça fait longtemps. Une carte de fête, peut-être. Mais sinon,
comment?
Une carte de fête, peut-être. Mais
une
sinon,
carte de fête, mais déjà une carte de fête,
déjà,
c'est
rare.
Bien,
oui,
c'est bien.
Déjà bon. Ouais.
Mais moi, quand je pose la question, il y a des gens qui me disent, eh, mon Dieu, je me souviens pas quand est-ce que... Alors, puis des fois, il y a une personne aujourd'hui qui m'a dit, mais j'ai quand même reçu une carte postale. J'ai dit, vous ne l'avez pas jetée, hein, vous l'avez gardée. C'est ça, c'est le côté non éphémère. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société faite d'éphémères, d'images, de vitesse de croisière. Et lorsqu'on reçoit, qu'on va dans notre casier postal, puis qu'on a une vraie lettre avec un vrai timbre écrite à la main, que ce soit une carte de fête, un mot pour nous encourager dans un changement de vie, peu importe, c'est quelque chose qui vient laisser une trace. Et je pense que l'écriture, l'art épistolaire, la correspondance, c'est une manière de se manifester à l'autre puis de lui dire à travers ça, je prends le temps aujourd'hui de t'écrire, je prends le temps d'aller vers toi. Et ça fait plaisir parce que c'est quelque chose de plus en plus rare.
Et c'est plus réfléchi aussi, j'ai l'impression, quand c'est couché sur papier, avant d'écrire, on y pense peut-être plus à la réflexion qu'on laisse.
Je vais te dire
plus spontané, ça peut être un ou l'autre.
Ça peut être l'un ou l'autre, Luc, parce que au contraire, quand on écrit une lettre, il y a comme quelque chose...
Ça sort d'un jet,
oui. Oui, il y a comme quelque chose qui monte de notre cœur, de notre pensée, puis... On peut avoir beaucoup de liberté à laisser au bout de sa main, au bout de sa plume, la pensée du cœur. Il y a quelque chose de... C'est un geste beaucoup plus intime, en fait.
C'est quoi ta réaction quand tu reçois une lettre de Jeannette, justement?
Ah, oh, mon Dieu!
Parce que c'est une lettre de grand-maman qui rentre,
oui,
finalement.
C'est une très belle question, Luc. Écoute, je prends toujours un moment choisi pour la lire. Je ne lis pas ça vite dans l'auto,
non, parce qu'on
est arrêté au casier postal sur le chemin des chalets.
Ouais.
Je rentre à la maison, je dépose la lettre sur ma table d'écriture ou sur la table du salon. Puis là, j'attends d'avoir un moment pour m'asseoir puis prendre le temps d'ouvrir l'enveloppe. Et souvent, l'enveloppe est décorée, elle colle des fleurs, elle colle de toutes sortes de choses, parce que c'est une femme très créative dans sa manière de communiquer avec les autres.
Est-ce que tu réponds tout de suite ou tu te laisses le temps?
Non, je ne réponds pas tout de suite. Moi, je la garde. Puis des fois, je vois, mais si c'est une carte, souvent c'est une carte, mais écrite au complet, là, sur trois côtés presque.
Okay.
Parce que grand-maman, elle écrit beaucoup. Je la dépose souvent sur ma table de salon ou la table de la salle à manger où est-ce qu'il y a des fleurs, comme pour qu'elle soit avec nous, avec Jacques et moi, pour quelques jours. Puis là, à un moment donné, je me dis, ah, là, ce matin, tu prépares ton enveloppe, puis tu choisis ton papier, puis là, tu vas écrire à grand-maman. Et tu vois, juste avant de venir, je lui ai posté une lettre. Mais mon papier à lettres, c'était la copie. J'ai imprimé une photo de moi où je suis en train de travailler à ce livre-là, puis il y a ces photos sur la table. Puis c'est un photographe qui avait pris cette photo-là. Fait que je l'ai imprimé, puis j'ai écrit à l'endo de ça.
OK.
Oui. Puis j'ai posté aussi un conte pour enfants qui a été écrit par ma sœur Geneviève. Puis j'ai fait faire une dédicace pour son arrière-arrière-petit-fils, qui s'appelle Liam, dont tu as vu la photo dans le livre. Alors, et j'ai posté ça juste avant de m'en venir te rencontrer aujourd'hui.
Louise, ce qu'il faut savoir, c'est que Jeannette Rivière, c'est aussi une autrice.
Tout à fait. Jeannette a publié son premier livre au seuil de ses 90 ans.
Quelque chose quand même.
Oui. Et le deuxième livre, moi, j'ai eu la joie d'écrire sa préface. Elle a publié un troisième livre, et ça, L'héritage des mots, en collaboration avec moi, c'est son quatrième ouvrage.
Ça représente quoi pour sa famille? Parce qu'on parlait d'héritage tout à l'heure, c'est ça, c'est l'écriture, c'est ça. Il y a quelque chose qui reste, elle a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants.
Oui.
C'est vraiment un héritage pour
elle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ses premiers livres, c'est un peu en fait, la retranscription de ses journaux intimes, parce que Jeannette, grand-maman, elle a commencé à écrire son journal, elle avait 14 ans, et elle a toujours continué au fil des années. D'ailleurs, je le mentionne, à un moment donné, hein, Sylvain m'envoie un journal, ça s'appelle le journal de la spiritualité, et ça s'échelonne sur 4 ans. Et là-dedans, j'ai fait des découvertes merveilleuses, des textes sur Roméo, son mari, que j'ai incorporé dans le montage du livre. C'est sûr qu'en ayant ces livres-là qui sont publiés, et en plus, notre correspondance, ça dépose dans les mains de sa famille, des membres de sa famille, un objet qui est en fait un souvenir tangible de qui était leur mère et leur grand-mère et leur arrière-arrière-grand-mère. Et ça, c'est un cadeau inestimable parce que aujourd'hui, des fois, je rencontre des gens de ma génération puis ils n'ont pas eu beaucoup de choses en héritage hein, de leurs parents. Bon, là, tu vas me dire qu'aujourd'hui, avec Instagram puis avec tout TikTok puis tout ce que tu veux, c'est sûr que la nouvelle génération auront peut-être plus de choses qu'une vieille boîte de diapositives et puis quelques vieilles lettres d'amour écrites dans les années 50, là. Mais il reste que d'entrer dans l'intimité de cette femme-là puis de voir son rapport à l'autre, c'est quand même une inspiration, je crois, pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, effectivement.
As-tu l'impression qu'on ne prend pas assez de temps avec nos aînés pour les connaître, savoir ce qu'ils ont vécu? Ça va vite maintenant. J'ai l'impression que y a tout un pan de l'histoire qui va disparaître éventuellement si on ne prend pas le temps de parler avec eux.
Oui, parce que je regarde, même si on a eu, on a parlé beaucoup de nos aînés pendant la pandémie, puis on a essayé de faire des choses pour eux. Moi, je l'ai vu. Là, on a eu plein de demandes pour écrire des lettres à des aînés. Puis moi, je leur ai dit, écoutez, ça fait 15 ans que je fais ça déjà, là. Mais je vois, là, depuis que ça va mieux.
On est retourné à case départ. Hein.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau des résidences. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau même des familles. Mais c'est toute une réflexion sociétale qu'il faut faire. Comment... Parce que nous autres, là, c'est nous autres qu'on va vieillir, là, ceux qui ont 60 ans et plus, dans les prochains 30 ans. Et puis, où est-ce qu'on veut vivre? Comment on veut vivre? Comme disait Paul, je pense que c'est Paul Baillargeon qui est comédienne et qui écrit aussi, Paul qui dessine, qui disait, ben là, je m'excuse, mais moi, j'irai pas jouer au bingo, là. Puis, tu sais, quand j'ai écouté du Led Zeppelin, là... D'ailleurs, moi, je m'amuse toujours, tu sais, Luc, quand je rencontre des jeunes, je leur dis, écoutez, là, allez voir mon site, là, vous allez voir que moi, j'ai été une rockeuse, puis tu sais, je me suis baignée tout nu dans les rivières, puis du pot, j'en ai fumé, là, un instant, là, on a beau avoir les cheveux blancs, puis être rendu à 70 ans, on a fait notre jeunesse, puis on est encore très jeune, c'est-à-dire que la vieillesse n'est plus ce qu'elle était il y a 30 puis 40 ans. Moi, j'ai l'air plus jeune que ma mère quand ma mère est décédée à 58 ans, puis j'ai 20 ans de plus qu'elle. Là. Alors, c'est toute une réflexion, mais si chacun se donne la peine de faire une petite réflexion au sujet de leur vieillesse et des gens qui les ont précédés, mais peut-être qu'on va arriver à des résultats. On parle beaucoup de l'écologie, hein, puis de l'état de la planète. Mais il faut parler de l'état de l'être humain, parce que l'humain, il a vraiment besoin d'être sarclé puis d'être réinventé avec des valeurs un peu plus humanistes, un peu plus de bienveillance. Le mot bienveillance, c'est un mot qui est dans ma bouche et dans mon écriture presque quotidiennement. Et en ce moment, on voit qu'on a un urgent besoin de renouveler avec la bienveillance.
Pendant le confinement, tu as fêté tes 70 ans. Qu'est-ce que ça représentait? Est-ce que ça changeait quelque chose?
Oui, je voulais faire un gros party, moi, là. Écoute.
Ben, t'en as eu un petit bonsoir. Tu as eu une belle surprise de tes deux filles de trop.
Oui, ça,
Virginie,
ça m'a fait.
Virginie et Evelyne Brochu.
Oui, ça m'a fait plaisir. Mais nous, on avait réservé, tu sais, une place magnifique. On avait 60 invités. Mon amie Marie-Lou, avec qui j'ai écrit...
Marie-Lou
Dion, avec qui j'ai écrit Un été trois grâces, avait préparé quelque chose de formidable avec notre amie Catherine. Parce qu'on fêtait mes 70 ans. il y a 2 ans, et notre 25e anniversaire de mariage à Jacques et moi. Puis mais là, on a tout annulé, puis on était reclus au chalet, puis c'est ça. Là, Jean-Philippe Vautier m'a fait la surprise de m'appeler, mais ben, tu vois, cette année, il ne m'a pas appelé. C'est fini. C'est fini. Je suis une aînée. On l'a souligné. Bonjour, la visite.
La saison n'est pas finie. Peut-être qu'il va t'appeler.
Ah, peut-être. Mais là, je ne serai peut-être pas disponible. Voilà, là.
Peut-être.
Ah non, non. Moi, je suis rendue une Saguenayenne quasiment à plein temps.
Mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est venue avec les 70 ans ou c'est un chiffre?
Ah non, il y a vraiment une grande réflexion ce qui m'a facilité à faire cette réflexion de lâcher prise et de détachement par rapport à la carrière, c'est le fait d'être éloigné du grand centre, d'être au Saguenay et non plus dans la métropole. Et puis, de voir que tous les artistes étaient un peu dans le même bateau, là, c'est que tout s'est mis au ralenti. Si tu ne jouais pas dans le district 31, il n'y avait pas grand-chose qui t'arrivait ta carrière.
Ouais.
Donc, tu sais pas comme quoi la police, hein, ça, ils ont toujours les places, là. Alors, non, moi, je remercie la vie parce que cette distance, c'est Lanza Del Vasto qui a écrit un jour dans Le Pèlerinage aux sources, cette distance qui fait que le regard s'aiguise et qu'on voit clair, cette distance qui a pour nom le détachement. Et puis ça, c'est une phrase que j'ai lue dans ma vingtaine, puis plus je vieillis, plus j'en comprends la portée et le sens. Et je voyais que j'avais vraiment à céder la place à toute une nouvelle génération, mais la céder réellement à l'intérieur de moi, avec tout mon cœur, puis me réjouir pour toute cette génération montante qui prend la place. C'est sûr que j'aimerais que dans les séries puis les films, on voit que les enfants, ils ont des parents puis des grands-parents, là. Quand j'ai fait Paul à Québec, c'est ce que j'ai aimé de Paul à Québec. J'avais 3 belles grandes filles, 3 beaux grands gendres, 5 petits-enfants, puis Gilbert et moi, on avait vraiment une présence importante dans le film. Tu vois, parce que la vie, c'est ça, gars. On regarde autour de nous, là, toi aujourd'hui, là, t'as ta mère qui est là, t'as ta blonde, t'as ta petite-fille. Le monde sont en famille. C'est comme ça qu'on vit. Alors,
et la télé devrait être le reflet de ce qu'on vit, en fait.
Je pense.
Ah oui.
Fait que, à mon goût, il y a trop de drames, trop de meurtres, trop de violence. Ça, c'est... Je pense qu'on a besoin d'avoir des choses plus lumineuses.
Légèreté, moi.
Moi, en tout cas, ce que je me souhaite,
ouais,
c'est le prochain rôle important. Je voudrais que ce soit un rôle lumineux. Parce que moi, c'est ça que j'ai envie d'offrir en ce moment aux téléspectateurs.
Et on en aurait besoin après cette année-là.
Bien, je le vois parce que l'accueil de l'héritage des mots de notre livre à Jeannette...
C'est lumineux. Ouais.
C'est lumineux et c'est ce qu'on me dit. C'est le discours de tous les gens qui m'ont reçu en entrevue depuis un mois et demi, 2 mois. Ça fait du bien, c'est lumineux, on a des choses à apprendre à travers ça, ça nous inspire. Alors, on a besoin de ça.
Est-ce que ça t'a manqué par moment, cette carrière-là? Ou
de chanteuse?
Ouais.
Non, ça ne m'a pas manqué parce que je l'ai vécu à plein pendant presque 15 ans. J'ai fait des tournées, je suis allée chanter en France, j'ai enregistré 5 albums, j'ai écrit 50 chansons. Mais je te dirais que j'ai fait des comédies musicales aussi à l'époque, dans les années 70, c'était des revues musicales avec François Guy. J'ai joué aussi des comédies musicales au théâtre, mais j'aimerais ça refaire un spectacle, une comédie musicale. J'aimerais ça. Puis c'était drôle parce que je t'ai parlé hors honte que j'avais renoué un petit peu avec Nanette Workman, qui a été ma voisine avec qui j'ai fait une grande tournée avec Jean-Pierre Ferland à l'époque du gramophone au laser. Alors on chantait toutes les deux avec Marie-Claire Séguin. Et puis Nanette, elle a dit qu'elle a pris sa retraite, mais elle a dit... Ah, c'est Luc Plamondon où on faisait une offre de comédie musicale, je dirais peut-être oui. Fait que là, j'ai écrit à Nanette en disant, ben moi, j'embarque n'importe quand. Fait que là, je nous ai imaginé toutes les deux, là, tu sais, les deux vieilles rockeuses, là, qui reviennent.
Bon, on parlait de réflexion sur la vie avec Jeannette Rivière. Est-ce que dans cette correspondance-là, on ose aussi aborder la fin de la vie ou on va pas là?
Bien, il y a un chapitre sur les deuils. Parce que en vieillissant, on a beaucoup de lâcher prise puis de deuil à faire. D'abord parce que tu l'as dit tout à l'heure.
On perd des gens autour de nous.
Beaucoup. Et aussi, on doit faire le deuil de souvent de ces maisons, parce que souvent, on a vécu longtemps dans la même maison, puis là, il faut laisser aller. La maison est rendue trop grande. Des fois, si on était en couple, on perd, il y en a un des deux qui décède. Il faut repenser son habitation, son hébergement. On prend notre retraite. C'est tous des deuils à faire à partir d'un certain âge. Et ça, on l'adresse. Il y a un chapitre, d'ailleurs, qui dit « La mouvance et les lieux de vie ». Les mouvances et lieux de vie, bien, on adresse ça parce que grand-maman Jeannette, l'hiver, elle est à Québec, puis l'été, dans sa maison chalet à Carleton. Et à un moment donné, elle va quitter Québec, puis elle va s'en aller en résidence pour personnes âgées à Maria. Mais j'ai aimé ça parce que quand c'est arrivé, ça, je pense qu'elle le dit dans une de ses lettres, elle l'écrit, son fils Sylvain, qui l'a accompagné là-dedans, a dit, « Mon Dieu, Louis, je me sens comme une jeune mariée. » Elle a dit, il m'a dit, « Maman, t'apportes juste tes objets chers à ton cœur, mais on te remeuble en neuf. » Fait qu'elle avait un nouveau divan, un nouveau Lazy Boy. Fait qu'elle se sentait comme une jeune mariée. Oui. Puis je trouve que c'est intéressant de voir sa capacité à Jeannette de regarder les choses sous un angle d'espérance et de joie au lieu de dire « Oh mon Dieu, c'est pas drôle, faut que je quitte. » Mais... Non, elle n'est pas comme ça.
C'est inspirant aussi parce qu'elle choisit d'avoir une belle vieillesse, si on peut dire ça comme ça. Évidemment, ça reste un choix, si on fait exception de la santé, là, ça, c'est pas toujours un choix. C'est pas un choix, les problèmes de santé, mais est-ce que c'est inspirant d'avoir quelqu'un qui décide que ça va être beau? La suite, même s'il n'y a plus le travail, même s'il y a des trucs qu'on peut moins faire, mais de décider que ça va être beau quand même?
Bien, c'est peut-être dans ce sens-là, Luc, que ma correspondance depuis les 12 dernières années avec Jeannette Rivière m'a vraiment aidée à commencer à avancer sur le chemin du vieillir, parce que j'ai vu qu'elle, après avoir eu 5 enfants, avoir travaillé, avoir été complice avec son mari du commerce familial, maintenant, elle est dans une résidence, puis elle continue de se tourner vers les autres, puis de prendre soin. Comme quoi notre essence, puis notre mission de vie peut se poursuivre au-delà du travail, au-delà de plein d'événements qui nous entourent dans notre vie. Et moi, ben, j'ai pas eu d'enfants ni de petits-enfants. Alors moi, c'est sûr qu'il faut que je vieillisse en me tournant vers les autres par ma créativité, par mon accompagnement, parce que sinon, je vais penser que je ne sers plus à rien. Si je ne suis plus à l'écran, je ne suis plus sur les plateaux de tournage. Alors heureusement, j'ai mon écriture, puis ça, ben je peux écrire encore jusqu'à la fin. Au fond, c'est une activité que je peux poursuivre dans mon vieil âge un jour. Puis grand-maman en est l'exemple. Si grand-maman Jeannette est capable de publier 3 livres de 90 ans à 100 ans, moi, je peux bien me rendre à 105, 110, là.
Et le hasard et le travail ont fait que tu es allé en Gaspésie pour un tournage de court-métrage, et ça tombait bien, parce que c'est là où elle demeure,
oui.
Jeannette. Donc, ça permettait des retrouvailles. C'est un peu le travail,
oui,
qui a provoqué ça.
Bien, en fait, c'est ça ce que j'appelle ça, c'est ça, les joies de l'inattendu. Tu sais, dans la vie, des fois, on voudrait telle chose, ça n'arrive pas, mais il y a d'autres affaires qui vont se présenter. Et moi, au moment où on me propose d'aller faire ce tournage-là de Zénith, en Gaspésie, à Carleton, donc juste à côté, la municipalité voisine de Maria, où habite grand-maman, ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas eu de tournage, de un. Deuxièmement, les dates, c'est comme 2 semaines avant la date que j'avais prévue d'aller voir grand-maman avec notre livre qui devait arriver. Alors, au moment où on me propose ça, je dis, bien, gardons ça, la vie veut que j'aille vraiment porter le livre en main propre à grand-maman. Alors, les livres n'étaient pas encore arrivés par container parce que, évidemment, c'est un livre magnifique, plein. Oui. Alors, ça a été publié imprimé en Chine. Mais mon éditrice en avait reçu quelques copies. Et là, j'ai pu apporter une copie à Jeannette, une copie à son fils Sylvain, et partager des moments avec elle, parce que là, ça déconfinait. Puis on a pu avoir un repas en famille, un repas au restaurant. Alors, c'était une grande joie parce que non seulement j'avais un tournage avec une maison de production gaspésienne, j'avais envie d'encourager cette maison de production-là, les films Ezouli, je crois que ça s'appelle, et de puis Mathieu Cyr, qui est le réalisateur de Zénith. Et c'est une jolie histoire, un peu sombre, mais une belle histoire quand même, avec Marilyn Gastonguay puis David Savard, que j'aime beaucoup. Ça fait deux fois que David fait mon fils. Alors, jamais 203, là. Fait que peut-être qu'un jour, il va être encore mon fils. Et puis, ça, tu vois, c'était complètement inattendu et je pouvais jumeler ma passion pour le cinéma et ma joie d'écrire avec Jeannette.
Tout à l'heure, tu as parlé du lâcher-prise sur le travail. Cette année, c'est les 50 ans de ta sortie du conservatoire, 71. Est-ce que c'est bizarre de faire un lâcher-prise l'année des 50 ans de carrière?
Ah, c'est comme, mon Dieu, je ne m'en étais même pas rendu compte. Non, je crois que ça, c'est comme par rapport à notre physique ou par rapport à n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on fait en d'avance. On se lève pas un matin et on a lâché prise.
Ouais, hein? Il y a un travail à faire.
Oui. Comme là, moi, ces temps-ci, je me regarde puis je fais, oui, là, l'âge commence à apparaître. Je le vois dans mon visage que l'âge commence à apparaître. Mais il y a quelque chose que j'aime là-dedans, c'est que c'est mon vécu. Puis le fait, avec la pandémie, on n'a pas eu de sortie, il n'y a pas eu rien de glamour, fait qu'on on se maquille moins, ouais. On se coiffe moins. Donc, on laisse plus, on est plus lousse par rapport à ce qu'on est. On accueille davantage qui on est. Puis ça, ça fait partie aussi de prendre les choses comme elles s'offrent à nous. Ceci dit, je prends soin de moi, là. Je le vois que l'arthrose se met dans les genoux. Il faut que je fasse un peu d'exercice. Au chalet, je fais de l'aquaforme dans le lac. Mais je fais des choses que j'aime. Je suis pas drastique, puis je me fouette pas là, pour faire. Tu sais, comme d'habitude, du lundi au vendredi, je fais toujours comme un 20 minutes de yoga, étirement, des exercices. Puis là, matin, ben, vu que je venais te voir, ça a fait, ben là, tu peux bien prendre congé. Mais tu sais, c'est parce que la routine a été changée. Là, il fallait qu'on quitte à une certaine heure pour s'en venir jusqu'ici. Fait que j'ai dit, je ne me stresserai pas avec ça de faire absolument.
Oui, mais là, c'est parce qu'on se détend pas avec le yoga si on est stressé. Là.
Ben non, ça marche pas, hein? Non, t'as raison.
Dans le livre, il y a des lettres qui sont reproduites intégrales pour qu'on voit bien la calligraphie, parce qu'on aurait, évidemment, tout est retranscrit, mais il y a quelques lettres qui sont là, intégrales, pour qu'on voit bien l'écriture. À quel point c'est important qu'on voit cette réelle correspondance-là, parce qu'évidemment, elle n'est pas par ordinateur, elle est vraiment par
papier. Mais d'abord, pour voir qu'il y a de la créativité dans ces lettres-là. Ouais. On voit que grand-maman, des fois, elle va coller quelque chose, moi, la même chose. On dessine sur nos lettres et on voit la main d'écriture. Et on est capable de lire la main d'écriture de Jeannette, on est capable de lire ma main d'écriture. Et ça, on a une belle main d'écriture parce qu'on a beaucoup d'expérience. On écrit à la main chaque jour, depuis des années et des années et des années. Et principalement, grand-maman, elle a une main d'écriture très stable pour l'âge qu'elle a. C'est magnifique. Je te montrerai la lettre qui est rentrée il y a quelques jours, puis c'est encore ça. C'est magnifique.
Qu'est-ce que ça a changé tout au fil de ta vie d'écrire à des gens? Il y a eu ton père, il y a Jeannette, il y en a eu d'autres, j'imagine.
Bien, des amoureux, hein, il y en a aussi. Eu beaucoup. Mon correspondant, Gilbert Dreher, quand j'avais 14 ans, puis j'étais pensionnaire. Je crois que ça m'a permis de... Ta question est vraiment intéressante, Luc. Je crois que ça m'a permis de livrer l'essence même de ce que je suis. Moi, je suis une grande amoureuse. J'ai un côté romantique. Et puis, quand j'écris une lettre, c'est ça qui s'offre finalement.
Et donc la correspondance, peu importe avec qui tu changes, ça permet de mettre définitivement qui tu es sur papier.
Oui.
Alors que dans la vie, on ne prend peut-être pas ce temps-là de réfléchir. On parlait de spontanéité tout à l'heure dans l'écriture, mais il y a quand même un côté réfléchi de à quoi je pense sur telle thématique, comment je me sens aujourd'hui, concrètement, quand on le met en écrit, c'est plus concret que dans la vie qui va vite,
bien, j'ai l'impression. Surtout qu'on est très expéditif maintenant dans la vie. On va vite au but, puis c'est ça qu'on veut, puis on est un peu directif, tandis que l'écriture d'une lettre pour explorer les émotions, ça devient un geste beaucoup plus... qui peut être plus réfléchi, oui, mais en même temps, offrir une zone plus... plus poétique, plus... c'est comme si on s'engage pas dans le même sentier, en fait. On n'est pas... Tu sais, dans la vie, on a beaucoup de choses à répondre, payer des comptes, faire des démarches professionnelles. Bon, c'est toutes des choses qui sont un peu obligées, obligatoires, qui demandent... qui font appel à une partie de soi. Tandis que écrire à un ou une amie, une grand-maman, un parent, écrire à quelqu'un qui vit seul, puis qu'on veut lui apporter un peu de présence ou de soutien, là, on parle d'affaires de cœur. Même moi, dernièrement, j'ai invité mon frère à venir s'asseoir avec moi. J'ai dit, on ne parlera pas de l'actualité. Lui, c'est un journaliste. J'ai dit, on va parler de la vie puis du cœur. On peut-tu juste s'asseoir puis parler de la vie puis du cœur? Parce que là, on parlait du film La parfaite victime, là.
Oui.
Hein? Puis là, mon frère en journaliste, hein, il avait toute une opinion journalistique là, du film qu'il n'avait pas vu, d'ailleurs. Ah, puis là, moi, ça m'a pompé bien raide, là. Puis là, le lendemain, j'ai dit, garde, on va s'asseoir, puis on ne parlera pas de l'actualité, parce que c'est ça qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux, puis les médias. C'est que tout le monde a une opinion sur tout, puis là, ça s'ostine, puis ça se dégrade. Puis moi, je trouve que, entre autres, ce film-là n'est pas là pour faire ça. Au contraire, il est là pour éveiller les esprits, avoir de la compassion, avoir de l'accueil pour toutes ces femmes et même ces hommes qui sont victimes de violence et d'agression sexuelle. Donc, c'est ça là, qui, moi, m'interpelle. C'est, on peut-tu parler des vraies choses avec un ton puis un accueil? Puis même moi, il faut que je me surveille parce que je suis capable de me pomper. Moi, j'ai du caractère, comme dit Jacques à ses amis. Louise, Louise, vous demandez si Louise, elle a du caractère? Il dit, mettons, je ne la fais pas répéter.
Je veux parler d'un symbole. Quand tu es arrivé tout à l'heure, tu as trouvé une plume.
Oui.
Et tu m'as dit que c'était un symbole lié à ta sœur Pauline, qui nous a quittés il y a déjà quelques années. Ça vient d'où, ce symbole-là?
Oh mon Dieu, ça, c'est une belle histoire. Je la raconte dans mon livre « Pauline et moi ». C'est qu'une année, je devais être présidente d'honneur à Baie-Saint-Paul du Symposium d'art contemporain. Et le matin de mon départ, j'ai eu un appel, puis on m'a dit « Pauline est vraiment mourante ». J'ai reviré de bord, puis je me suis en allée à l'hôpital. Bon, j'ai passé les 3 derniers jours avec elle, elle est décédée. Et un an plus tard, j'ai voulu honorer mon engagement. Tu me connais, Luc. J'ai voulu honorer mon engagement, et là, j'ai accepté la présidence d'honneur au symposium. Et le matin, il y avait une artiste tatoueuse qui était là. Et j'avais trouvé une plume le matin sur la grève à Baie-Saint-Paul, puis je lui ai demandé de me tatouer ça, parce que, mais j'ai dit, il faut que ça devienne comme, regarde, ça devient un oiseau. Alors pour moi, c'était comme le départ de Pauline était comme une libération pour elle et pour moi. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires parce que je suis allée marcher sur un sentier, puis j'ai rencontré 2 sœurs très, très âgées qui venaient là à chaque année. Puis elles m'ont dit, « Ah, vous venez marcher dans le sentier des oiseaux. » Alors, il y a eu... Alors, depuis ce temps-là, plein de signes de synchronicité, ce qui fait que à chaque fois que je trouve une plume, pour moi, c'est toujours le signe que Pauline n'est pas loin. Alors, j'en ai collé une, d'ailleurs, dans ma page de journal ce matin avant de venir te voir. Puis tu vois, regarde, je viens d'en trouver une autre. Je l'ai glissée dans ma copie de L'héritage des mots.
Donc, c'est toujours important pour toi de les garder?
Bien, oui. Puis aussi, c'est quelque chose qui, dans la vie, j'essaie d'être attentive à ces choses-là. Il y a des gens qui vivent puis qui font jamais attention à rien. Mais il faut...
Être attentif aux signes. Ouais,
aux signes. Être attentif aux signes. Être attentif aux rencontres. Ça veut dire être présent. Ça veut dire, je suis présente à ce qui se passe ici, maintenant. Mais souvent, avec la vie qu'on mène, hein, tu le sais, Luc, on tombe dans notre tête, puis ouais. Là, ça, le hamster, il part, puis on n'est plus en train. On mange, mais on n'est pas en train de manger. On est
déjà en train de penser au prochain repas ou à la prochaine
oui,
fois qu'on fait.
Oui, oui. Alors, c'est quelque chose qu'on a à pratiquer parce que c'est jamais acquis. On peut facilement se faire distraire hein, partout. Ouais. Puis moi, je remarque ça, là, encore hier, je marchais sur la rue, puis il y avait une petite terrasse, puis il y avait deux parents avec leur enfant. Puis les deux parents étaient chacun sur leur téléphone. Puis la petite fille, elle gigotait parce qu'elle n'avait plus où se mettre parce qu'on ne s'occupait pas d'elle. Puis elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Bien, je me suis retenue parce que j'ai failli m'arrêter puis chanter une chanson à la petite fille, mais je ne l'ai pas fait. Parce que là, j'étais en réaction.
Je veux qu'on parle de Roxane Bruno.
Oui.
Parce que c'est toi qui m'as demandé cette chanson-là. Oui. Donc, tu l'aimes,
ben,
Roxane Bruno?
Moi, j'aime beaucoup Roxane Bruno. Je trouve qu'elle amène un vent de fraîcheur puis en même temps de grande authenticité. Puis elle est belle comme un cœur. Elle chante bien. Puis ses paroles, j'aime beaucoup ses textes. En fait, dans le paysage musical québécois, là, Elle est ce que Ariane Moffatt était quand on a découvert Ariane il y a 20 ans. Bien, Roxane, pour moi, c'est ça. Je pense qu'elle va aller très loin. Elle est formidable.
Et là, je veux qu'on parle de le guide de famille de la famille parfaite qui est en salle présentement.
Oui.
Parce que tu as tourné ça.
Oui.
Il y a un petit bout.
Il y a 2 ans.
Donc là, on peut te voir sur grand écran. Puis il y a un autre film qui s'en vient, qui est le film de Luc Picard aussi.
Confession, oui.
Donc, 2 tournages que tu as fait. Parle-moi des 2 rôles.
Alors, écoute...
Là, tu es la mère de Louis.
Là, je fais la mère de Louis Morissette. Alors, quand je suis arrivée le premier matin sur le tournage, j'ai dit à Louis, je suis contente, j'ai déjà fait la mère de Véronique, ta femme, dans Les Dangereux, il y a très longtemps. Alors, écoute, ça a été fort sympathique. Moi, j'avais vraiment le goût depuis longtemps de tourner avec Ricardo Trogi, sous la direction de Ricardo, dont j'adore les films. Alors, c'était 3 jours de tournage avec un partenaire que j'adore qui est Gilles Renaud. Et puis, c'était sympathique. J'aurais aimé ça peut-être avoir une scène de plus avec ma petite fille là, dans la cuisine, mais qu'on ait un temps d'échange, la grand-mère et la petite, qui traversent quelque chose de difficile. Oui. Mais bon, c'était pas dans le scénario. C'est là qu'on voit que prendre notre place en aîné, c'est pas toujours évident. Oui. Mais sinon, le film est réussi, vraiment. Et je crois que c'est un film, d'ailleurs, le box-office va très bien,
ouais.
Qui va interpeller beaucoup les parents qui ont des enfants, justement, et qui ont beaucoup d'attentes envers leurs enfants. C'est pas facile d'être un enfant aujourd'hui, hein?
Non.
Non plus. Alors, non, moi, j'invite les gens à aller le voir. Puis moi, ben, je viens vous faire un petit clin d'œil de grand-maman.
Et là, il y a Confession,
oui.
Qu'on va voir éventuellement. Évidemment, tous les films ont été reportés avec la pandémie puis la fermeture des cinémas. Donc, Confession, c'est un autre genre de film.
Ah, oh, complètement.
Complètement. Là.
Oui,
on
complètement.
Est dans une
histoire
de tueur à gage, en fait.
C'est ça, c'est l'histoire de Galant qui est toujours en prison en ce moment. Luc a été interpellé par la complexité de cet homme-là puis a décidé d'adapter un livre qui avait été écrit sur lui. Et c'est lui-même qui réalise et qui incarne Galant. Il va être formidable dans le film. Et un jour, il m'a appelé pour... c'était drôle parce qu'il a appelé puis il dit « Bonjour, Louis, c'est Luc Picard. » Là, je dis « Luc Picard, le comédien? » Il dit « Ben oui. » J'ai dit « Excuse-moi, je suis très surprise, on ne s'est jamais parlé au téléphone. » Fait que j'avais jamais travaillé avec Luc. Fait qu'il dit « Je t'appelle Louise parce que j'ai quelque chose de spécial à te proposer. » Bon, je tourne ce film-là, il me raconte un peu l'histoire, c'est moi qui réalise. Puis il dit « Je voudrais que tu joues ma mère. » Mais il dit « C'est particulier parce que tu as juste 2 scènes. Une, tu as 58 ans, puis l'autre, tu as 80 ans. » Puis il dit « C'est une scène très difficile, très dure. » Puis là, j'ai dit « Écoute, je te dis oui. J'ai même pas besoin de lire le scénario. J'ai confiance, puis c'est un beau défi pour moi. » Puis ça a été un super de beau tournage. On a été 2 jours en tournage. Alors, une journée, j'ai 58 ans, puis le lendemain, j'ai 80.
Donc, tu joues plus jeune et plus vieille que ton âge,
c'est
finalement.
C'est ça. Et puis, non, ben ça, tu vois, tantôt, je te parlais des joies de l'inattendu. Ça, ça en a été une, comme de jouer aussi dans le guide de la famille parfaite. Et puis, ça fait plaisir de voir que les films fonctionnent bien en salle, puis que les gens se déplacent pour aller le voir. Puis, moi, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de la distribution.
J'ai vu que tu as sorti des notes.
Oui, ah oui, c'est parce que je voulais te lire quelque chose.
Vas-y.
Au sujet, justement, de l'héritage des mots. Je partais à la rencontre d'une nonagénaire qui m'apprendrait le sens du partage. Comment créer l'harmonie et la paix en soi et autour de soi. Un apprentissage de tous les instants et que chacune de ces lettres m'inspirerait.
Et ça t'a inspiré?
Ça dit tout. Hein? Ça dit tout. Ça m'inspire comme femme. Voir le chemin parcouru, ça m'inspire aussi comme être humain. Comment... de veiller au bien dans cette bienveillance qu'elle rayonne, elle, autour d'elle. Tu sais, grand-maman, à Noël, en plein confinement, elle a écrit 150 cartes de Noël, une carte pour chacun des résidents du manoir Lady Maria. Faut le faire.
C'est quelque chose.
C'est vouloir prendre le temps puis offrir.
Pour tout le monde.
Parce qu'elle dit, tu sais, des gens, il y a des gens qui n'ont jamais rien, Louise. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait des petites pantoufles pour les religieuses de Gaspé. Elle a toujours été généreuse de son temps et de sa créativité.
Louis, je vais inviter les gens à se procurer l'héritage des mots. Correspondance entre deux rives, c'est chez Druide. J'invite les gens aussi à aller sur la page Facebook de CJSO. On fait tirer des livres, alors je vais inviter les gens à aller s'inscrire pour participer. Je vais aussi inviter les gens à se procurer Un été, trois grâces. Tu devais venir nous voir pour nous en parler, mais évidemment avec la COVID... C'était pas simple. Oui. Beau livre que tu as écrit avec deux amies actrices, des filles avec qui tu es toujours amie.
Toujours. On a d'ailleurs cette semaine, ça fait un an qu'on ne s'est pas vus. Ça fait que là, on a un apéro dînatoire chez Marie-Lou Dion, Christiane Pasquier et moi. Christiane et moi, on apporte les bulles, puis Marie-Lou nous prépare des bouchées. Ça fait que là, on va passer plusieurs heures ensemble. Puis j'invite aussi les gens à consulter mon site internet, louiseportal.com, parce qu'à la rubrique écrivaine, il y a tous mes livres. Ils vont pouvoir regarder. Regardez un petit peu. Il y a un livre d'or, vous pouvez me laisser des messages. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu de commentaires des gens. Alors, puis vous allez voir les nouveautés, puis ce qui m'arrive. Puis des belles photos. Il y a un très bel album photo sur le site.
Et qu'est-ce qui s'en vient là, au niveau de l'écriture pour toi? Parce que tu connaissais sûrement quelque chose.
Oui, c'est ça? Bien, il y a un ouvrage qui va sortir au printemps que je fais en collaboration avec un illustrateur.
OK.
Qui est Tristan Demers.
Ah oui, oui.
Ouais, avec Tristan. Alors ça va être super. J'en dis pas plus parce qu'il est un peu tôt. Ensuite, je suis en préparation, une autre collaboration avec un jeune auteur d'un autre ouvrage. Et puis, je suis en préparation de quelque chose en co-écriture avec mon mari, Jacques. Et puis, j'ai un roman qui dort encore dans mes tiroirs là, depuis 4 ans. J'ai 50 pages d'écrites, mais je le laisse... dormir doucement jusqu'à temps que ça soit le temps de poursuivre l'écriture. Puis j'ai un projet de théâtre pour mars 2022 au Saguenay. Fait qu'on en reparlera.
Et tu vas revenir nous voir.
Oui, oui, bien sûr, Luc, avec grand plaisir.
Louise, merci beaucoup d'avoir été là. C'est
toujours
un bonheur de te recevoir.
Merci, c'est toujours une joie de te connaître.